This is Radio Free Europe.
Benvenutos in Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20, ce soir, en Chine et à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, ce sera Ailleurs dans le monde, le journal de l'international de Michael Thébault. Cinéma avec le livre de la jungle, Corinne Pellissier l'a vu et a beaucoup aimé. Elle nous dira pourquoi tout à l'heure. 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier du quotidien Le Monde. Ce soir, le Brexit, panique au sommet de l'État français en cas de sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Mais tout de suite, parlons d'économie et d'économie mondiale.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Car le FMI a abaissé ses prévisions de croissance pour 2016 et 2017. C'est la quatrième révision consécutive à la baisse en un an. La zone euro est à la peine. Les émergents sont vulnérables. Seule la Chine semble tirer son épingle du jeu avec une croissance potentiellement plus forte que prévue. Que se passe-t-il dans l'économie mondiale? On va essayer de comprendre ou en tout cas d'en savoir un peu plus ce soir grâce à vous. Guillaume Duval, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Vous publiez « La France ne sera plus jamais une grande puissance ?» Point d'interrogation. Tant mieux, point d'exclamation. C'est aux éditions La Découverte. Dites-nous, Guillaume Duval, quels indicateurs, quels signaux clignotent au rouge ?
Beaucoup pour le FMI. D'abord, il revient aussi sur le Brexit dont vous allez parler tout à l'heure, en considérant que c'est un risque sérieux non seulement pour l'Europe, mais pour l'ensemble du monde. Et ensuite, il enregistre la gravité de la situation en Russie, au Brésil, dans un certain nombre de pays producteurs de pétrole en particulier, qui sont très atteints par la baisse du prix du pétrole, ce qui avantage un peu les autres économie, mais enfin, même en Europe, ça ne va pas très fort. Hein. Donc en France, le FMI prévoit 1,1% de croissance cette année. C'est pas mieux que l'an dernier. Et il en va de. Et en Espagne ou au Royaume-Uni, il prévoit un recul de l'activité par rapport à l'an dernier. Mais M. Maurice Obstfeld, donc, qui est le chef économiste du FMI, attire en particulier l'attention sur la faiblesse des hausses de salaire qui est à l'origine de cette faiblesse de la croissance mondiale en Europe, mais aussi dans le reste du monde.
Alors, je ne sais pas, Guillaume Duval, si c'est un concept très précis sur le plan économique, mais le sentiment que donne le FMI, c'est que l'économie mondiale est bien molle, et notamment l'économie européenne. C'est mou, on ne voit pas trop vers où ça va, on ne voit pas trop ce que peuvent donner ces petits points de croissance ici ou là.
Ce qui se passe en Europe, et ce que dénonce d'ailleurs le FMI, c'est une politique déséquilibrée. Hein. C'est une politique où on a une politique monétaire qui est assez laxiste, mais le fait qu'elle soit laxiste pose des problèmes politiques de plus en plus graves, notamment en Allemagne. Mais les effets positifs de cette politique monétaire, donc la BCE qui a des taux très bas, qui prête beaucoup d'argent aux banques, etc. Mais les effets positifs de cette politique monétaire sont contrebalancés, annulés par des politiques budgétaires qui reste trop restrictive, notamment en Europe. Je pense que le FMI considère que l'Europe est une des zones qui tire l'économie mondiale vers le bas. Le FMI est en particulier très inquiet de la situation aussi en Grèce et des négociations qu'il y a à l'heure actuelle. Il fait une pression importante pour que les Européens se résolvent enfin à diminuer, annuler une partie significative de la dette grecque, parce qu'il ne croit pas du tout que les Grecs vont pouvoir repartir et rembourser leur dette au niveau où elle est aujourd'hui. Donc le FMI est très inquiet en particulier de la situation en Europe.
Ouais, et sur la zone euro, la prévision de croissance pour 2016 est de 1,5 contre 1,7 lors de la précédente prévision. C'est un drame ce 0,2 en moins?
Non, c'est pas un drame, mais ça veut dire simplement que dans une Europe, dans une économie mondiale où la Chine ralentit fortement, vous avez souligné tout à l'heure que le FMI était un peu moins négatif que précédemment, mais enfin, il y a quand même un ralentissement très net qui se maintient dans les prévisions du FMI, où les pays producteurs de pétrole, la Chine, la Russie, le Brésil, etc., sont eux à la traîne. Ce que constate le FMI, c'est que l'Europe ne joue pas son rôle, le rôle rôle qu'elle pourrait jouer pour entraîner à nouveau l'économie mondiale. L'Europe a en particulier des excédents extérieurs colossaux et c'est absolument aberrant que nous soyons dans cette situation-là. Ça veut dire que nous produisions plus que nous ne consommons, ça veut dire que nous pourrions dépenser plus en Europe sans avoir besoin de demander de l'argent aux Chinois, aux Américains, aux Saoudiens, etc. Donc l'Europe a une responsabilité très lourde dans le ralentissement de l'économie mondiale que note le FMI.
En quoi, vous en disiez un mot tout à l'heure, mais venons-y plus au fond, en quoi la perspective d'un Brexit est-elle un tel drame ? Sur le plan économique, je ne parle pas politiquement.
Alors, ce qu'en dit le FMI, c'est qu'il dit que le Brexit entraînerait des dommages régionaux et globaux sévères en rompant des relations commerciales établies, bien établies. Donc là, ça c'est une appréciation. On ne peut pas évidemment savoir a priori ce que ça donnera, mais le Brexit créerait une crise, enfin susciterait une accélération de la crise européenne dont on voit mal aujourd'hui les conséquences, mais on peut penser que d'autres pays européens seraient tentés de suivre. Il y a la Tchéquie qui a annoncé déjà plus ou moins des projets de ce type. On peut penser que dans un contexte comme celui-là, la crise des réfugiés s'aggraverait. On peut penser que dans un contexte comme celui-là, la crise grecque et les crises des dettes européennes qui n'est toujours pas résolue deviendraient encore plus graves parce qu'on se demanderait en plus si tel ou tel pays ne finirait pas par quitter l'Europe lui aussi. Donc le FMI est très inquiet là-dessus. Alors il y a une partie de politique sans doute, il s'agit de pousser les électeurs britanniques à ne pas faire de bêtises entre guillemets, mais il y a sans doute aussi une partie de crainte réelle pour l'impact potentiel sur l'économie. L'économie, c'est beaucoup de la confiance, c'est beaucoup de la croyance. Et,
oui, c'est de la sécurité, des perspectives stables, c'est ça.
Si les acteurs économiques se mettent à penser que l'Europe est en train de se défaire, ça aura évidemment des conséquences non seulement sur la croissance européenne, sur l'activité économique en Europe, mais sur l'activité économique mondiale qui est déjà tirée vers le bas par l'Europe.
La France ne sera donc plus jamais une grande puissance et c'est tant mieux, dites-vous dans le titre de votre livre aux éditions La Découverte. La France souffre dans ses prévisions de croissance du FMI. Alors c'est une bonne chose à en croire à vous lire ou c'est tout de même inquiétant pour le pays ?
Non, c'est évidemment inquiétant pour le pays, mais justement, je pense qu'il faut qu'on se rende compte qu'en dehors de l'Europe, on n'a pas de possibilités de survie dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut qu'effectivement la France s'implique davantage pour changer les politiques européennes qui sont négatives aujourd'hui, négatives pour l'Europe, mais aussi négatives pour la France, dans la mesure où on ne fait pas ce qu'on pourrait faire pour relancer l'activité en Europe, pour diminuer le chômage en Europe, pour diminuer les excédents extérieurs européens. C'est quand même une aberration. On aurait pu dépenser l'an dernier 250 milliards d'euros de plus en Europe sans avoir besoin de demander un sou à personne. C'est de la folie furieuse de s'organiser pour ne pas le faire.
On voit mal, du coup, Guillaume Duval, un retournement de situation à court ou moyen terme.
C'est sans doute plus envisageable qu'on ne le pense.
Ah bon ?
Donc les Allemands crient de plus en plus contre la politique monétaire de M. Draghi. Simplement, il faudrait que d'autres acteurs leur disent, enfin, et notamment le gouvernement français, qui ne le fait pas pour l'instant, c'est gentil de protester contre la politique monétaire de M. Draghi. On pourrait avoir en effet une politique monétaire moins laxiste en Europe et ça pourrait être avantageux, mais à une condition seulement, ce n'est possible à une condition seulement, c'est qu'on ait des politiques budgétaires moins restrictives, c'est qu'on ait un plan de relance européen qui soit significatif sur les questions d'énergie, de transition énergétique, on en a absolument besoin, mais aussi sur les questions de réfugiés. La question des réfugiés ne peut bien se traiter en Europe que si on accueille ces réfugiés à crédit. Avoir 2 millions de réfugiés en Europe sur 500 millions d'habitants, c'est pas une affaire, mais c'est vrai que si on doit prendre les budgets pour les nourrir, les entretenir, les loger, etc. sur d'autres budgets, c'est tout de suite un problème politique. Si on s'endette ensemble pour les accueillir correctement, c'est plus une affaire.
Ouais, et à échelle mondiale, Guillaume Duval, quand on voit ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir le poids, la fragilité, les vulnérabilités aussi des émergents, les cours des matières première. Est-ce qu'on peut envisager un retournement de situation à court ou moyen terme ?
À long terme, il faut penser effectivement à long terme. La dynamique des émergents telle qu'on l'a connue depuis 30 ans n'aura plus lieu, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça veut dire aussi que le dumping social qu'a exercé la Chine depuis 30 ans sur le reste de l'économie mondiale devrait se réduire. Mais c'est vrai qu'il faut de toute façon s'habituer, pour des raisons écologiques essentiellement, à vivre avec des niveaux de croissance relativement faibles. Il pourrait être un peu plus élevé qu'aujourd'hui, notamment en Europe, avec des politiques moins stupides. Mais ça veut dire aussi que si on veut combattre le chômage qu'il y a en France et en Europe, il faut être capable d'envisager des choses du style de la réduction du temps de travail. Mmh. C'est tant qu'on pense que c'est en diminuant le coût du travail, en allongeant le temps de travail des gens qui ont déjà un emploi, qu'on va résoudre les questions, les difficultés économiques qu'on a en France et en Europe. Là, on ne peut pas s'en sortir.
Guillaume Duval, merci, rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Je renvoie à votre dernier livre intitulé « La France ne sera plus jamais une grande puissance ?» Point d'interrogation, tant mieux, point d'exclamation. C'est aux éditions La Découverte. Il est 18h30, on est ensemble jusqu'à 20h sur Inter à suivre le journal de l'International. Mais pour l'instant, écoutez cette version de Smoke on the Water signée Senior Coconut.
Stones playing just outside.
Senior Coconut pour cette reprise de Smoke on the Water. Il est 18h34.
Horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienza las comparecencias.
Thanks so much for that report.
L'heure du journal de l'international sur Inter. Bonsoir, Michael Thébault.
Bonsoir, Nicolas.
Vous avez choisi ce soir la thématique du mur, Michael. Ces murs qui séparent, à commencer par le plus grand de tous, et pourtant méconnu, voire totalement inconnu.
Ah oui, c'est simple. Faites le test autour de vous avec cette question. À l'exception de la muraille de Chine, où se trouve aujourd'hui le plus long mur au monde séparant deux pays? Eh bien, peu de chance que l'on vous réponde entre l'Inde et le Bangladesh. Et pourtant, c'est là qu'il se trouve. Et c'est là que le photographe belge Gaël Turin a choisi de se rendre. Un photoreportage édifiant intitulé « Le mur et la peur ». Alors pourquoi s'y est-il intéressé? Eh bien, tout simplement, d'abord parce que les chiffres de l'édifice donnent le vertige. Gaël Turin.
C'est sa longueur, 3200 km, mais c'est aussi son coût de construction, plus 4 milliards de dollars. Ses coûts d'entretien, plus d'un milliard de dollars par an. Le temps de construction, puisque le chantier a démarré en 93 et s'est terminé en 2013, donc sur 20 ans, ils ont couvert les 3200 km. C'est aussi le mur frontière sur lequel il y a le plus grand nombre de victimes, puisqu'on parle d'une moyenne de un mort tous les 5 jours depuis 10 ans. C'est quand même assez effarant. Et donc, compte tenu de tous ces éléments, et du fait qu'il soit à peu près méconnu de la presse et quasi inconnu pour le grand public, je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. De plus, il sépare un pays gigantesque qui est quasiment un continent, c'est le subcontinent indien, qui a décidé de se séparer du pays le plus pauvre de toute l'Asie. Donc là, il y avait un contraste aussi assez saisissant.
Et presque personne n'en parle, donc 3200 km de briques et de barbelés sur 3 mètres de haut minimum. Construction décidée et réalisée unilatéralement par l'Inde, au nom de multiples raisons plus ou moins bonnes, écoutez.
Alors au départ, c'est pour prévenir et freiner, voire stopper, l'immigration économique bangladaise. Les Bangladais ont toutes les bonnes raisons de vouloir passer en Inde, parce que même s'il y a beaucoup de pauvreté en Inde, il n'empêche que ce pays est aujourd'hui une économie dite émergente, avec beaucoup de possibilités. Donc il y a effectivement beaucoup de Bangladais qui passent illégalement et clandestinement en Inde pour trouver du boulot. Ensuite, il y a les menaces terroristes, puisque dans certains États indiens, majoritairement musulmans, agissent des groupuscules islamistes terroristes qui, selon Delhi, a ses bases logistiques du côté bangladais. Et donc, construire ce mur, c'est une manière de les arrêter. C'était totalement illusoire aussi. Il y a aussi, je pense, du côté indien, une volonté de maîtriser l'eau dans cette région. Il faut savoir que les grands fleuves qui traversent le Bangladesh passent immanquablement par l'Inde, puisque l'Inde enserre complètement le Bangladesh. Le Bangladesh a une situation quasi d'enclave. Donc la maîtrise de l'eau et des grands fleuves, c'est aussi une manière pour l'Inde d'avoir un positionnement très fort. L'Inde qui est dans un renfermement nationaliste à la fois politique et religieux, et donc veut se barricader contre ces populations musulmanes qui les encerclent et voilà.
Et nous voici maintenant, Michael, littéralement au pied du mur. Alors, que voit-on?
Tout dépend, en fait, de l'endroit où vous vous trouvez, car sur les 3270 km de mur, sa physionomie change souvent, construction en dur ou pas, mais avec toujours cette même présence de barbelés piquants ou tranchants, et surtout de milliers d'hommes en armes. Gaël Turin.
Ce mur, alors, il est fait principalement d'une double haute clôture de fil de fer barbelé et, dans certaines villes et villages, d'un mur de briques. Des deux côtés du mur, donc dans les deux pays finalement, ce mur est directement entouré d'une zone informellement, on va dire, interdite. Parce qu'elle n'existe pas sur les cartes, cette zone. Mais elle est interdite dans la mesure où il y a une présence militaire du côté indien extrêmement répressive, c'est-à-dire qu'elle tire sur tout ce qui bouge et tout ce qui approche du côté bangladais. Et la force militaire frontalière bangladaise est plutôt, on va dire, préventive, c'est-à-dire qu'elle essaye de prévenir les candidats au passage. Et cette zone interdite, elle peut aller de 300 mètres à 5 à 10 km de profondeur. Et il y a une telle présence militaire, il y a des checkpoints partout, qu'il est impossible pour quiconque qui n'habite pas dans cette zone d'y pénétrer et d'y voyager.
et les habitants de ces zones, justement, sont très nombreux à y vivre aujourd'hui encore. Ils n'ont pas eu le choix. Quand la construction a débuté, c'était soit conserver sa modeste habitation, même dans ces conditions, soit tout perdre. Du coup, la vie s'organise autour des barbelés, de part et d'autre. Et côté indien comme côté bangladais, eh bien, toutes sortes de trafics se sont montés, quitte évidemment à y laisser la vie. De tout petits trafics, pour la plupart, mais parfois franchement surprenants.
C'est des petits trafics, c'est des petites choses. Quand je vois des mômes qui ont 12 ou 13 ans et qui passent le mur 3 fois par jour pour transporter 5 kilos de cumin ou 5 kilos de curry, puis ils vont revendre ça, la marge bénéficiaire, elle sera de 2 euros. Mais quel risque encouru ? Le trafic le plus important, on va dire économiquement, c'est le trafic de vaches. Puisque du côté indien, la vache est sacrée, il ne fait pas question d'y toucher. Alors là, on fait passer la vache en coupant les fils de fer barbelés. Et en créant un trou, puis on fait passer le troupeau. Seulement, le troupeau, qu'il soit de 10 ou 20 têtes, il fait du bruit. Et donc, il y a régulièrement des hommes qui se font tuer lors de ces passages clandestins.
Et pour finir, Nicolas, j'ai demandé à Gaël Turine de choisir et de décrire une photo parmi les 62 de son livre. Écoutez.
C'est une photo qui, je ne pense pas que photographiquement soit la photo la plus impressionnante et la plus forte du livre. Par contre, elle est très importante. On y voit l'arrière-cour d'une maison, de cette petite baraque de bambou. Et il y a 3 mètres qui séparent l'arrière-cour de cette clôture de fil de fer barbelé. Et on se rend compte, à ce moment-là, dans quelle mesure l'histoire a pu rattraper la vie de cette famille. Cette famille vivait là depuis très longtemps. Et puis un jour, les militaires arrivent et puis ils annoncent qu'ils construisent un mur et qu'on va traverser des villes et villages, etc. Et on voit une grand-mère qui se fait peigner les cheveux par sa petite-fille avec des vêtements qui pendent sur les fils de fer barbelés. Donc c'est une scène du quotidien. Ils ont appris à vivre avec.
Voilà, vêtements qui sèchent sur des barbelés, scène donc du quotidien, le long de ces 3200 km de murs entre l'Inde et le Bangladesh. Et je vous redonne le titre du superbe livre de Gaël Turine, à lire et à regarder, Le mur et la peur, aux éditions Photopoche Société.
Et en bref, Michael, une autre histoire de mur.
Alors géographiquement beaucoup plus proche de nous et qui inquiète grandement la Commission européenne. Un projet de construction d'une clôture par l'Autriche à sa frontière avec l'Italie. Vienne estime qu'avec la récente fermeture de la route migratoire des Balkans, les réfugiés risquent d'arriver en masse par la Méditerranée. Et ça, pas question. Les autorités autrichiennes avaient déjà été très critiquées pour la construction d'une première clôture à la frontière slovène. La Commission européenne était déjà montée au créneau. En vain, les barbelés ont été installés.
Allez, direction maintenant la Chine, où il est encore question de murs, mais cette fois virtuel.
Puisqu'on va prendre le pouls de l'actualité web chinoise. Bonsoir Dominique André, en direct de Pékin.
Bonsoir Michael.
Alors nul n'en doutait, mais ça se confirme une fois de plus Dominique, la censure ne se relâche évidemment pas en Chine et les internautes doivent donc toujours faire preuve de rapidité, d'ingéniosité face à la police d'Internet. Dernier exemple, plutôt cocasse, que vous avez repéré sur la toile chinoise.
Le gag de ces derniers jours a fait beaucoup rire les internautes chinois. Feng Bingxing, le père de la grande muraille électronique, ce cordon qui a été mis en place entre l'internet chinois et le reste du monde, a été pris la main dans le sac. À Harbin, dans le nord de la Chine, Feng Bingxing a été contraint d'installer un VPN pour contourner la censure du site internet dans l'institut où il donnait une conférence. Bref, c'est l'arroseur arrosé. Sur les réseaux sociaux, on s'est beaucoup moqué de l'homme qui doit contourner sa propre création. Feng Bingxing, c'est vraiment celui qui a mis au point la censure sur Internet dans les années 2000, ce qui exaspère au quotidien tous ceux qui ont besoin d'Internet pour travailler.
Oui, on voit évidemment ce que vous voulez dire, Dominique, et la censure a aussi frappé le cinéma.
La cérémonie de remise des prix au 35e festival du film de Hong Kong n'a pas été diffusée par la télévision chinoise. Le prix du meilleur film a été attribué à Ten Years, un film indépendant qui prédit un avenir sombre à Hong Kong. Un peu moins de 20 ans après la rétrocession, le film raconte la désillusion des Hongkongais qui n'ont pas du tout confiance dans l'engagement un pays de système. Le film est interdit en Chine continentale parce que les censeurs ont jugé qu'il portait un regard négatif sur les lois chinoises. Il y a eu beaucoup de commentaires sur la messagerie instantanée WeChat du style « Le film est à la fois une prédiction et une fable ». mais ils ont été très vite effacés par les censeurs.
Et en Chine aussi, hein, depuis 10 jours, on parle des Panama Papers, Dominique, mais entre soi, pas franchement sur la toile.
Alors si vous tapez Panama Papers sur Baidu, le moteur de recherche chinois, il n'y a aucun résultat. Sur les réseaux sociaux, on a trouvé quelques centaines de commentaires il y a quelques jours avec des critiques contre les enfants des princes rouges, ces hauts responsables du Parti communiste qui ont des comptes offshore. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ce qui agite les réseaux sociaux cette semaine, c'est une vidéo qui circule sur Weibo, le site de microblog. Il s'agit d'une tentative d'enlèvement dans le hall d'un petit hôtel de Pékin, dans le quartier des artistes. La caméra de sécurité a enregistré un homme qui traîne une jeune femme sur le sol. Ils veulent l'emmener à l'extérieur et la plupart des clients ne sont pas intervenus, sauf un employé de l'hôtel. Alors la police a considéré que la jeune femme n'avait pas été blessée, que ses affaires n'étaient pas du tout endommagées, mais le mouvement de solidarité sur les réseaux sociaux a obligé les policiers à réagir et à arrêter l'homme.
Dominique André, correspondante de France Inter à Pékin, merci. Et on retrouvera les extraits de ces vidéos sur le site, évidemment, d'Un Jour dans le Monde.
Allez, pour finir, Mickaël, rien à voir avec les murs, non. Vous nous emmenez maintenant en taxi.
Ah, mais attention, pas n'importe quel, hein. Pas n'importe quel taxi. Savez-vous ce que signifie en Bambara Taxi Tigui?
Non, Mickaël.
Eh ben, ça veut tout simplement dire chauffeur de taxi.
Ah bon, d'accord.
Et c'est aussi le nom d'une série télé malienne diffusée sur la chaîne nationale ORTM depuis la mi-mars et qui cartonne. Elle raconte le quotidien d'un chauffeur de taxi, donc, dans la capitale malienne. Notre correspondant à Bamako, David Baché, s'est caché sous la banquette arrière pour assister au tournage de l'un des épisodes.
Dans cet épisode, le chauffeur de taxi se fait escroquer par deux complices qui organisent un faux accident afin de lui voler son argent. La série Taxi Tigui est avant tout un divertissement avec des sketchs comiques, mais elle prétend également montrer diverses facettes de la réalité malienne. Comment Diabaté est l'acteur principal de la série Le Taxi Tigui.
Dans la série, on m'appelle F1 parce que je crois que mon taxi est le meilleur au monde. Je suis le meilleur chauffeur aussi. Au fait, on essaie de refléter la société à travers les taxis. Parce que le taximan, il peut rencontrer n'importe quel genre de personne. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les taxis. Donc avec les taxis, on peut beaucoup apprendre sur la vie quotidienne. Oui, les politiques, la religion, l'immigration, on a beaucoup de thèmes dans ce tournage.
Parti a été pris de tourner cette série non pas en français, comme c'est souvent le cas pour rayonner en Afrique de l'Ouest, mais en Bambara, la langue la plus parlée à Bamako. Toumani Sangaré est réalisateur et co-scénariste de la série Taxi Tigui.
Le jeu aussi s'en ressent. Les gens sont beaucoup plus à l'aise avec leur langue maternelle. De les voir jouer souvent en français, je trouve ça surjoué. Ils sont trop dans la réflexion du dialogue, etc. Alors qu'en Bambara, c'est du jeu beaucoup plus naturel. Ils arrivent à improviser énormément. Et là, c'est ce qu'on fait. Beaucoup de sketchs sont improvisés.
Est-ce que ça va être sous-titré pour les autres communautés?
Tout à fait, tout à fait. Après, bon, justement, on veut sous-titrer la série en français afin que ça touche un plus large public.
Action !
La série a aussi un objectif pédagogique de prévention routière, Toumani Sangaré.
Notre taximan montre l'exemple, c'est quelqu'un qui porte toujours sa ceinture.
Ce qui n'est pas très réaliste au Mali.
Exactement, donc c'est quelqu'un qui porte toujours sa ceinture, qui incite ses passagers à la porter également. On a beaucoup de motos ici à Bamako qui circulent et les gens n'ont pas de permis de conduire, ne connaissent pas le code de la route. Donc à travers ce petit divertissement, essayer de sensibiliser les gens à des petites règles de conduite qui seront données à la fin de chaque épisode.
Toi tu montes à l'avant. Après, eux, ils sont partis.
D'accord.
Lui, il s'est remis à rouler. On y va, on fait un essai.
Pour le tournage, le taxi a été posé dans la grande halle du musée national de Bamako. Les séquences ne sont pas filmées en pleine rue, mais en salle, devant un fond uni de couleur verte, à la manière d'un plateau météo. Une technique inédite au Mali. Toumani Sangaré, réalisateur de la série.
On a voulu utiliser ce procédé du fond vert, parce que tourner avec des acteurs dans Bamako, avec la circulation qu'est Bamako, c'était extrêmement difficile. Et on voulait qu'ils soient concentrés dans leur jeu d'acteurs. Donc on a utilisé ce procédé du fond vert, dans lequel on incruste derrière la circulation. Par un procédé de post-production, on ajoutera les images de la ville.
Jusque-là, là, il faut bien rester collé sur la voiture. Et après, quand vous partez, vous partez.
Ah, okay.
Mais pour le comédien Comand Diabaté, alias F1, rouler dans un taxi immobilisé au milieu d'une pièce vide n'a rien de déstabilisant.
C'est l'avantage même de la comédie. Je me sens très bien dans ce taxi parce que moi, au moment du tournage, je sens qu'il y a mon moteur, je sens que tout est parfait. Donc je me sens dans un vrai, vrai taxi.
Taxi Tiki.
Ouais.
44 épisodes de 3 à 5 minutes seront diffusés au Mali. Et pourquoi pas ailleurs, si le chauffeur de taxi rencontre de nouveaux diffuseurs sur sa route.
Voilà, reportage signé David Bachet. Renseignement pris, Nicolas. Pas encore de diffuseur en France pour Taxi Tigui. À demain.
À demain, Mickaël.
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé.
Un jour dans le monde.
Et ceux qui creusent.
Nicolas Demorand.
Toi, tu creuses.
Sur France Inter.
Des animaux plus vrais que nature, une jungle épaisse et luxuriante, entièrement reconstituée en images de synthèse, et au milieu, un comédien filmé, lui, en prise de vue réelle. C'est le tour de force du réalisateur d'Iron Man, Jon Favreau, qui revisite le livre de la jungle dans une version 3D, bourrée d'effets numériques et signée Disney. Bonsoir, Corinne Pellissier.
Bonsoir.
Vous avez été, Corinne, séduite par les prouesses technologiques qui ont permis la réalisation de ce film. Un film très différent du vieux dessin animé qu'on connaissait. Là, l'immersion est totale.
Je crois qu'on n'avait pas vu mieux, en fait, depuis Avatar de James Cameron. Tout a été reconstitué au millimètre près. Les torrents, la boue, la jungle redessinée plante par plante. Les animaux aussi absolument bluffants de naturel. Et pourtant, réalisés comme le reste, en images de synthèse, grâce à une combinaison de technologies ultra avancées dans le domaine du motion capture et du photoréalisme. Le travail technique sur le film est énorme. Chaque recoin d'image est rempli de détails qui donnent une impression d'ensemble aussi réaliste que naturel. Seul le personnage de Mowgli n'évolue pas dans cet ensemble numérique. Et le tour de force, eh bien, c'est que ça ne se voit pas. Derrière toute cette mécanique, il y a un homme que Disney est allé chercher pour moderniser son grand classique. C'est Jon Favreau, réalisateur entre autres des deux premiers Iron Man. En termes d'effets spéciaux, il s'y connaissait un petit peu.
Il y a déjà eu plusieurs versions de l'histoire. Mais avec ce que permet la technologie aujourd'hui, on avait vraiment l'occasion de faire quelque chose d'unique. Par exemple, reproduire la jungle dans le film sur nos ordinateurs sans jamais nous déplacer, à part pour faire des recherches. Et ce qui me rend le plus fier, c'est que non seulement on n'a pas dérangé la nature en débarquant avec des animaux, mais que la relation de Mowgli avec cette nature est très forte. Vous constaterez en voyant le film que l'homme peut être terriblement destructeur, mais qu'il peut aussi servir la nature. Et on a une responsabilité dans tout ça. Le rapport de l'homme à la nature a pas mal changé depuis une centaine d'années. À l'époque de Kipling, elle représentait quelque chose d'effrayant. Mais aujourd'hui, il nous faut la protéger. Et c'est pour cette raison qu'on a revu un peu les contours de l'histoire. C'est parce que les enjeux ont changé.
Voilà, alors la critique salue aujourd'hui la prouesse technologique, mais sur le fond, Jon Favreau s'est apparemment aussi accordé quelques libertés.
Pas sur l'histoire, mais sur le ton, plus proche du roman de Kipling que du dessin animé d'origine, qui pouvait sembler un peu cuculapraline et réducteur. On suit toujours évidemment les aventures de cet enfant loup élevé dans la jungle et qui va devoir lutter pour sa survie. Mais le fond de l'histoire est beaucoup plus sombre et puis le comédien qui joue Mowgli donne beaucoup plus de profondeur au personnage. Jon Favreau, au moment des castings, a été immédiatement frappé par le charisme de ce jeune garçon de 12 ans qui n'avait jamais joué la comédie ni même entendu parler du livre de la jungle. Il est arrivé là parce qu'il est ceinture noire de taekwondo, choisi parmi 2000 candidats, retenez bien son nom, il s'appelle Neil Setti et Jon Favreau lui doit beaucoup.
Les avancées technologiques nous ont permis des choses formidables. Mais ce film n'aurait jamais pu se faire si Neil Setti, le comédien qui joue Mowgli, n'avait pas été bon lui aussi. Tout le reste serait passé au second plan. Et du coup, tout le défi pour moi, c'était de retravailler l'histoire. Comment combiner les choses pour obtenir un résultat à la fois moderne et inédit? Évidemment, il fallait que je garde les musiques, mais si j'en laissais trop, on versait dans la comédie musicale enfantine. Et puis il y avait l'héritage Disney. Si vous laissez trop de côté la tradition, les fans dont je fais partie allaient rester sur leur faim.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil.
Évidemment, on ne pouvait pas la laisser de côté, hein, la fameuse chanson de Balou, interprétée dans la version française par Lambert Wilson. Au casting également, Eddie Mitchell, Leila Bekti, Bill Murray, Scarlett Johansson, Idris Elba pour les voix américaines. C'est la première fois que Disney s'offre autant de stars sur le doublage de l'un de ses films, et c'est déjà un succès. 32 millions de dollars de recettes pour le premier week-end d'exploitation du film en Amérique du Sud et en Asie. Disney étudie déjà la faisabilité d'un deuxième volet.
Corinne Pellissier, merci.
13th of June 2010. Whiskey at noon and an unfamiliar man lying in your bed. Or was it my turning head? Thinking it was you. Your favorite tune played time and again. We flew to the moon and took in the open plain. You said it was time. And then you let the light shine.
Keren Ann sur Inter, juste avant Arnaud Le Parmentier.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Des sources proches de l'Élysée, comme on dit, vous ont parlé off du Brexit. Panique à bord.
Ah non, non, vous exagérez toujours Nicolas, vous êtes tout à fait indélicat, ce n'est pas vrai du tout, il n'empêche, la question voilà. Est posée, que se passera-t-il the day after, le jour d'après, lorsque les Anglais auront voté oui au Brexit, c'est-à-dire oui pour la sortie de l'Union Européenne. Aujourd'hui, bien malin qui peut prétendre l'issue du référendum du 23 juin, mais François Hollande et Angela Merkel commencent à se préparer au pire, ils ont abordé le sujet lors du sommet franco-allemand de Metz. Alors, tout un dispositif se met en place au cas où. La première chose à surveiller, ce seront les marchés financiers. Chute de la livre, mouvements brutaux de capitaux. Les banques centrales d'Europe et d'Angleterre seront sur le pied de guerre, tout comme les trésors des différents pays, pour assurer la stabilité financière des deux côtés de la Manche. Le deuxième sujet, c'est la crise politique au Royaume-Uni. Elle sera terrible. On ne voit pas comment David Cameron pourrait rester Premier ministre en cas de défaite. Et on imagine déjà le bouillant maire de Londres, Boris Johnson, perdre sa place. Alors ça, c'est pas grave du tout. Mais ce qui sera beaucoup plus grave, c'est que tout le Royaume-Uni pourrait être déstabilisé. Nicolas, vous avez pensé aux Écossais,
évidemment.
C'est normal, qui voteront pour l'Europe et donc se remettront sur le tapis leur demande d'indépendance. Mais le vrai sujet, le plus inquiétant, c'est l'Irlande du Nord. Elle est pacifiée depuis des années, mais le nord de l'île se verrait coupé du sud, catholique. La déstabilisation est possible entre catholiques et protestants. On n'a franchement pas besoin de cela.
Et quels sont, Arnaud, les pays d'Europe les plus touchés?
Alors donc, l'onde de choc sera terrible. D'abord sur la République d'Irlande, qui va se retrouver séparée de son premier partenaire économique. Les Scandinaves et les Néerlandais vont être tentés par une sortie. En tout cas, ces pays vont se déchirer politiquement. On l'a déjà vu avec le référendum des Néerlandais sur l'Ukraine. Ce pays a beau être fondateur de l'Union Européenne, il est devenu franchement eurosceptique depuis 10 ans. Rappelons qu'il avait voté non à la Constitution Européenne en même temps que les Français il y a 10 ans. Alors heureusement, on se rassure comme on peut, la loi néerlandaise ne permet pas d'organiser un référendum d'initiative populaire pour demander la sortie de l'Union. Il n'empêche, le sujet sera posé. Le choc stratégique sera encore pire pour les Polonais, Nicolas. Leur idole sont les conservateurs britanniques. Alors, les équipes de Kaczynski haïssent les Russes, ont fait exprès de se brouiller avec les Allemands, ils ignorent les Français. La crise anglaise sera un séisme. Alors, il y a juste une consolation. La roulette russe anglaise ne marche pas. Menacer d'un référendum pour obtenir un statut favorable, dans le cas précis, ça conduirait au non.
Allez, balancez votre off maintenant. Comment va réagir la France, Arnaud?
Ah non, c'est pas mon off, c'est mon analyse. La première réaction, elle aura lieu dès que sera connu le résultat du référendum. Ce sera celle de... de Marine Le Pen. On l'entend déjà dire, n'ayez pas peur, entrez dans la résistance comme l'ont fait les Anglais churchilliens en 1940. Suivons l'Angleterre et exigeons une sortie de l'Union Européenne. Ce sera terrible à un an de la présidentielle. François Hollande, lui, ne réagira pas immédiatement. En tout cas, pas de plan tout ficelé, secret à présenter d'un coup. Les Européens se réuniront en conseil quelques jours après et l'on prendra son temps, je le crains, Nicolas. La réaction spontanée, celle que vous allez avoir, ça va être de dire « intégrons la zone euro, tant pis pour l'Union à 28 devenue 27 ». Eh bien, c'est une grave erreur, nous indique-t-on. Ce serait accélérer l'adhésion précipitée de la Roumanie, de la Pologne, de la Bulgarie à l'euro pour pouvoir rester dans l'Union européenne si celle-ci se démantèle. Ce serait une erreur. Ce serait faire rentrer des nouvelles Grèces en puissance dans l'Europe. Il faut donc sauver l'Union européenne et la zone euro. L'été sera chaud, on le voit, et la catastrophe serait que revienne au même moment la crise de la Grèce. C'est possible et c'est pour éviter cela qu'Alexis Tsipras est reçu ce soir à l'Élysée, Nicolas.
Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde, merci. Le journal est à suivre.